Donc, nous allons continuer notre périple dans la deuxième épître de Pierre. On s'est arrêté au verset 8. Et puis, on se rappelle simplement que Pierre a écrit cette lettre aussi proche de son départ. Hein. Il savait bientôt qu'il allait rejoindre le Seigneur. Et il avait à cœur d'avertir aussi les premiers chrétiens face à tous ces faux docteurs qui commençaient à semer des paroles qui n'étaient pas de Dieu. Et puis, un second but aussi de l'épître, c'est d'exhorter les croyants à rechercher avec diligence la piété et la connaissance véritable de Christ. Et là, je relis juste l'introduction qu'on avait partagée au début. Pierre résume son intention au chapitre 3, versets 17 à 18, où il exhorte les vrais croyants à être sur leur garde afin de ne pas être entraînés par l'égarement des impies, et à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hein, ça, c'est un peu le résumé de cette lettre. Grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur, ainsi que également d'être sur nos gardes, afin de ne pas être entraînés par l'égarement des impies. Alors, on avait vu la dernière fois un petit peu, si je reviens là-dessus, c'était la page 4. On avait vu un peu le caractère progressif de la croissance chrétienne on voit au verset 5, hein, ces vertus que le chrétien est appelé à additionner les unes aux autres.
Chapitre 2. Chapitre 2, tu dis.
Non, ça c'est non, toujours chapitre 1, verset 5. Hein,
ah, ça, ah, ouais, ah ouais, bah, moi je suis ouais. Sur le 2.
Non, chapitre 1, verset 5. Hein, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Hein, c'est toutes ces qualités en tant que chrétien qu'on est appelé à additionner. À la vertu, la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, la piété, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas que la foi. Hein? Non, on est appelé à ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité, à l'amour de Dieu. Hein? Donc, aujourd'hui, c'est vrai que des fois, certaines églises mettent tellement en avant la foi, et puis ne mettent pas en avant ces autres qualités, ne les recherchent tellement que si peu. Hein. Moi, j'ai eu une discussion avec un monsieur, là, voilà, je ne vais pas vous donner son nom, je ne vais pas vous donner son activité, mais qui est convaincu que, en tant que chrétien, on a été envoyé par Jésus pour guérir les malades, hein, c'est ce que Jésus nous a dit, en effet. Et puis que, de toute façon, on va guérir tous les malades que Dieu va mettre sur notre chemin. Et on a eu un débat un peu de doctrine là-dessus, mais il n'y démordait pas. Hein. Et puis, il voulait m'amener sur sa compréhension de la foi. Et puis, ben voilà, moi je dis, mais oui, mais à la foi, on doit aussi ajouter d'autres qualités. Hein. Je lui ai cité en partie les versets là de 1 Pierre. Parce que autrement on est déséquilibré dans notre spiritualité. Si le Seigneur nous a donné un cerveau, c'est quand même pour quelque chose. Et puis bien sûr nos pensées doivent être renouvelées dans le Seigneur, mais il nous a quand même donné un cerveau, il faut l'utiliser. Pas simplement mettre en avant la foi, la foi, la foi, la foi, et puis après vous arrivez à un évangile tronqué. Et puis,
non, je voulais juste dire ça que. Croire, c'est pas seulement la foi, c'est tout un ensemble.
C'est ça.
Parce que les démons, ils croient, ils tremblent, mais ce qui compte, c'est pas de croire en Dieu, mais c'est de croire ce que Dieu nous dit. C'est le plus important.
Puis, quand on voit dans cette liste la patience, ça veut dire quoi? Si Dieu nous enverrait réellement comme ça, avec cette puissance pour guérir tous les malades, comment pourrions-nous parler de la patience? Si au nom de Jésus, puis tous les gens autour de nous, la maladie qui s'en va. Hein? Alors, une fois encore, bien sûr...
On n'est pas appelé à être immortel, hein. Enfin, aussi sur cette terre, je veux dire. Hein.
Ouais. Et puis on peut être frappé par la maladie, même si on est sur le chemin du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la guérison, hein. Ça, c'est aussi bien ce que j'ai appuyé. J'ai dit, bien sûr, moi je crois à la guérison. mon Dieu, le Seigneur est tellement puissant. Qu'est-ce qu'un petit microbe pour lui, il peut ressusciter les morts. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un microbe pour le Seigneur, hein? Qu'est-ce qu'une maladie?
Surtout un microbe, c'est le moitié de crobe.
Ouais. Donc voilà, hein. Mais c'est vrai que des fois aujourd'hui, dans certaines églises, on vous présente l'évangile d'une manière. Moi, j'ai dit, il y a quand même un danger parce qu'il me disait, mais bon, si les gens sont guéris, après, ils viennent au Seigneur. Puis j'ai dit, oui, mais il y a le danger aussi de l'immaturité après de ces croyants. Parce que quand quelque chose de difficile va arriver, ils vont tout lâcher. Pas forcément, mais c'est quand même souvent. Hein. Enfin, voilà quoi.
Ah, il parlait de ceux qui étaient pas au Seigneur.
Pas au Seigneur, ouais, c'est pas évident.
De ceux qui sont pas au Seigneur, voyant les miracles, ils viennent à Jésus.
Ben non. Le Lazare, puis le riche, il le dit bien, ils ont les prophètes, puis ils écoutent quand même pas. Ouais. Donc, c'est la réponse.
Ah, moi, je pensais qu'il parlait pour nous.
Non,
pour les non-croyants.
C'est une sorte de menteur d'ours.
Et pour nous, c'est la même chose ou bien?
Non.
Ah, vous n'avez pas eu le temps de débattre en fait.
Bon, on en a débattu un certain moment, mais après moi j'ai dit, mais de toute façon je ne vais pas changer dans ma position. Parce que je savais que ma foi, elle était, et puis ma compréhension par rapport à la guérison était basée sur la parole. Voilà.
Hein, tu ne te dis pas s'il se passe rien, la personne n'est pas guérie, c'est de la faute à la personne.
Alors voilà, c'est toujours soit la personne qui reçoit la prière a pas assez de foi, soit celui pour qui la personne prie n'a pas assez de foi. En effet, c'est ce qu'il m'a dit.
Oui, mais ce n'est pas juste.
Pourtant, c'est un intellectuel. Hein.
Oui, mais c'est les pires, les intellectuels.
Non, mais c'est étonnant, hein, parce qu'on se dit quand même, quelqu'un qui a quelque chose dans le cerveau, peut-être qu'il se laisse pas emballer comme ça par une telle doctrine.
Ben non.
Ben non, voilà.
Mais il y a aussi une interprétation, moi, je pense, de la parole. On n'est pas tous les mêmes. Interpréter la parole de la même manière. Si on prend aussi un passage qui pourrait éventuellement nous mettre un peu, je dirais pas dans le doute, mais nous poser des questions, quand il est mentionné dans la parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, que ça soit la guérison ou n'importe quoi. Donc, quand on lit ce passage et on essaye de le mettre en pratique par la foi, des fois on voit qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On est bien d'accord. Alors c'est une question de comment il faut interpréter tel passage par rapport à d'autres. C'est là où on peut avoir des fois, même entre chrétiens, il ne faut pas parler seulement de ceux du monde, parce que ceux du monde, ils peuvent nous faire cette réflexion. Ah, ben, comment ça se fait, vous dites, il y a ce passage. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu vous l'accordera, il vous délivrera, il vous donnera les bénédictions que vous nous demandez en mon nom. Puis après, on voit dans un autre contexte que c'est différent. On ne peut pas comprendre les choses de cette manière-là. Alors, allons expliquer ça, même à des chrétiens, qu'on essaye de... Où c'est, je ne dirais pas où c'est qui est le vrai, où c'est qui est le faux, mais comment on doit comprendre. Voilà, c'est la simple question. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment on doit le comprendre et l'interpréter? C'est pas évident.
C'est exactement ce que je voulais dire.
C'est selon la volonté de Dieu qu'il faut interpréter ce passage. Alors, est-ce qu'on la connaît, sa volonté, sur certains points? Il faut être dans sa volonté.
Des fois, on est complètement à côté. Hein. Hein? On va prier pour quelque chose. On prie au nom de Jésus, mais on n'est pas du tout dans la volonté du Père.
Alors, donc, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous l'accordera. On ne peut pas l'interpréter comme ça, non.
Non, puis on ne peut pas le sortir du contexte.
Tu peux comprendre ce que je veux dire. Oui, clair, c'est selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande tout. Ça, on est d'accord, on en est convaincu à 10 000%, ce n'est pas le problème, il n'est pas là. Mais se dire, alors, comment interpréter ce passage? Tout ce que vous demanderez, puisqu'on est ses enfants ou ses disciples, en mon nom, le Père vous l'accordera. Alors, comment dois-je comprendre ça? Moi, je me suis fracturé les méninges à plusieurs reprises. Hein, que ce soit dans les prières qu'on ferait, par exemple, dans le cadre de notre famille, les malades, ceux qui ne sont pas malades, qui ne veulent pas croire, ceux qui sont rebelles et compagnie. Mais souvent, hein, on se dit, il y a le point d'interrogation. Comment il faut faire pour bien faire? Voilà. Comment il faut faire pour bien faire? Ou pour bien... Non, pour bien comprendre. Pour ne pas se tromper.
Je t'écoute.
Tu vois, je sais pas, Anna, vous.
Je sais pas si vous saisissez.
Il y a une autre pensée encore. Je crois qu'il faut bien cerner tout ce que vous demanderez. Dans quelles conditions est-ce qu'on le demande? Est-ce qu'on est tout près de la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est tout le temps près de lui? C'est à ce moment-là qu'on peut...
Et dans quel but on demande ?
C'est pas seulement demander et puis croire.
Ils partent, c'est être, nous tomber dessus.
Que la vie soit vraiment toute pro du Seigneur, et c'est tellement rare. Hein. On ne peut pas dire « Oh oui, je crois » et puis voilà, le Seigneur va accorder. Il faut vraiment... Alors je crois que c'est là qu'il y a ce problème de réponse ou pas de réponse. Parce que Jésus l'a dit, alors je crois que c'est quand même vrai. Hein. Voilà, bon, c'est ma pensée.
Oui, être proche de Dieu.
Et dans quel but on demande ?
Dans quel but ? Oui. Comment est notre cœur ?
Notre cœur, est-ce que pour nous satisfaire, nous, pour qu'on voie bien qu'on a prié ?
Est-ce qu'il a tout à fait près de Dieu ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut le prendre comme ça, sinon c'était ma pensée.
C'est juste, c'est tout à fait juste.
Puis ça doit être aussi pour la gloire de Dieu.
Amen. D'abord. Et souvent, j'ai prié, puis Dieu a répondu, c'est grâce à moi. mais
là, ça serait alors la gloire de Dieu.
Vraiment, on a des petits trucs en arrière-plan.
Ça crée orgueil, déjà, de se dire ça.
C'est, on est tortueux, le cœur du chrétien, mais il le dit à nous, est tortueux par-dessus tout. Si on veut bien s'analyser, des fois, ou souvent, on demande, mais on se dit, il ne veut quand même pas le faire. C'est trop compliqué, c'est trop... Ah, écoute, moi je dis ce que je pense, ça m'arrive des fois aussi de prier, puis je dis, de toute façon, il ne va pas répondre. Donc, je me le dis à l'intérieur.
Ça peut prier deux fois, ouais.
C'est tellement... On est tellement... Moi, je suis tellement tordu, je le sais, parce que... Non, mais moi, je suis spécial.
Mais c'est pour ça que la foi, là, nous est indiquée avec plein d'autres qualités. C'est pas seulement la foi.
Voilà.
Justement, c'est la foi et la science. Est-ce que ce que tu demandes a quand même une lumière de sagesse ou bien est complètement déraisonnable? Bon, Dieu peut faire des choses extraordinaires, on n'en doute pas. Mais est-ce que ce que tu demandes est en lien avec la maîtrise de soi? Est-ce que tu demandes est en lien avec la patience? Est-ce que tu demandes est en lien avec la crainte de Dieu? Est-ce que tu demandes est en lien avec l'amour fraternel? Ce que tu demandes, est-ce que c'est en lien avec l'amour de Dieu?
Est-ce que le pardon a été accordé ou le
aussi.
Pardon
Donc, comme on est des êtres imparfaits, on n'aura jamais de réponse, alors. Puisqu'on est tous imparfaits.
Il faut se rapprocher de Dieu.
Si on se rapproche de ça, ce que je viens de dire, on est tous imparfaits.
Il faut s'approcher de Dieu, comme le conseil que donnait Anna. C'est vrai que cherchons la présence du Seigneur. Moi, je ne vais pas témoigner là, mais dernièrement, j'ai vécu quelque chose pendant le samedi du jeûne, là. Je priais pour quelque chose. Puis j'ai eu un chiffre qui m'est venu à l'esprit là pendant qu'on priait ici. Et je ne vais pas aller plus loin dans le témoignage, mais le chiffre s'est accompli. Puis je disais, mais je ne comprends pas ce chiffre, Seigneur, et tout. Puis le chiffre s'est accompli. Je ne vais pas aller dans les détails, mais pour dire que Dieu, il est souverain. Et puis tout d'un coup, il peut nous répondre. Après, on peut se tromper à 100% aussi, parce qu'on est qu'humain, on n'est qu'un canal imparfait. Mais si on cherche la présence de Dieu, si on cherche la sagesse aussi auprès de lui par rapport à certaines décisions qu'on doit prendre, ben, Dieu nous parle de toute façon, moi je crois, d'une façon ou d'une autre, par un frère, par un verset de la Bible, par une prédication, par une louange, par le Saint-Esprit.
Faut être attentif à ce qu'il y a.
Dieu peut même envoyer un ange, il y a des gens qui ont témoigné, ils ont vu des anges et tout, voilà. Mais bon, on ne doit pas rechercher un culte avec les anges, c'est pas ça. Mais
t'as raison, vous avez raison, c'est ce rapprochement vis-à-vis. Qu'on a avec Dieu. Et si on l'a vraiment fortement, il y aura des choses qui vont se passer plus facilement.
Oui.
Enfin, voilà. C'est... Quelque part, c'est le privilège qu'on a en tant que chrétien, c'est que on prie de notre Père que ta volonté se fasse, que ta volonté soit faite. C'est qu'en tant que chrétien, on recherche la volonté du Père. C'est le privilège. Et puis on y va en tâtonnant, comme dit le psaume. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Puis si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà. Donc ça, c'est quand même le privilège du chrétien, c'est de découvrir la volonté du Père pour sa vie. Et puis ça peut toucher plein de domaines. Après, on n'est pas non plus des robots. Dieu nous donne aussi une capacité de jugement, de prise de choix, de direction, mais sur d'autres choses où nous, on a une vue très limitée, c'est vrai qu'on peut demander le conseil auprès du Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est aussi un esprit de conseil. Enfin voilà, mais après c'est vrai que pour connaître la volonté du Père, ben, il faut déjà aussi connaître les Écritures. Parce que si ce frère qui me témoignait que Dieu nous envoie, Jésus nous envoie pour guérir tous les malades, s'il avait un peu plus connaissance de ces Écritures, peut-être qu'il ne serait pas laissé embarquer dans cet enseignement.
Mmh. Bien sûr. Ouais.
Donc on revient au point de départ du but de cette lettre. Hein, prenez garde de ne vous pas laisser entraîner par l'égarement des impies et des faux docteurs. C'est pour ça que Pierre il pose quelques jalons quant à ce qu'est une vie de disciple. Alors si on continue la lecture, donc on pourrait prendre lire déjà de, donc 1 Pierre 9 jusqu'au verset 18. Qui c'est qui commence ?
Quant à celui qui ne possède pas ses qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé.
Merci. Verset 12.
9 à 11. 12 maintenant.
Puis on va jusqu'au verset 18.
On est où ?
1 Pierre 12. Ah oui, sa version est différente.
1 Pierre 1, 12.
Il a lu 2 Pierre 1.
Ah, tu m'as demandé 1 Pierre, toi.
J'ai dit 1 Pierre, mais je
t'ai cherché. Non, Pierre.
On est bien dans 2 Pierre.
Ah bon?
Non, c'est bon, t'es au bon endroit.
Ah, je suis au bon endroit, 1 Pierre. Ah, je suis au bon endroit.
Je voulais voir si, comme celui qui dit, je voulais voir si vous me suiviez. Mais
t'as pas la réglette, là.
J'ai manqué de science, pardon, Seigneur. Alors, 2 Pierre 1, 12.
Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements.
Verset 16. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » 18 encore. Mm-hmm. Cette fois, nous l'avons nous-mêmes entendu venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Voilà, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà là des remarques ou des questions.
Bon, d'après les notes, ils disent que Pierre, il sait qu'il va subir le martyre plus ou moins, hein, déjà. C'est pour ça qu'il prépare en disant, j'estime de vous tenir en éveil par mes rappels, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Parce qu'il semblerait, donc, toujours les notes, hein, c'est comment qu'il invente, hein, il subira le martyr pour sa foi vers 68 après Jésus-Christ.
C'est ça, oui. Mm-hmm.
Mm. Voilà.
Alors, en effet, hein, on parlait avant de connaître Dieu, d'être proche de lui. Ben, Pierre était proche du Seigneur, et puis Dieu lui a averti que bientôt son heure arrivera. Hein. Donc, voilà, hein, étonnant. Mais Pierre était proche du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, ben voilà, l'heure de ton départ s'approche. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette épître. Hein, ça l'a motivé à écrire cette épître voulant laisser un témoignage aussi pour les premiers chrétiens et puis tous ceux qui suivront. Alors, bah, de toute façon, on va discuter un peu hein, par rapport à ce qu'on vient de lire. Donc, le rappel hein, au verset 9 de ces valeurs en tant que chrétien, on est appelé à
développer.
À développer, à rechercher, à faire croître, que celui qui les a pas est aveugle. Et en effet, hein, si on n'ajoute pas ces vertus, l'exemple que je vous donnais là avant, bah, la personne elle est en effet un peu aveugle. Hein. Elle est aveugle. Et puis, plus grave, c'est que pour certains, voilà, il est dit, hein, il ne voit pas de loin. Hein. Toi, c'était parlé de myopie chez toi. En effet, il voit pas de loin, il voit pas ce qu'il y a devant lui. Il a pas vraiment la vision du Seigneur, ce que c'est qu'une vie chrétienne. Et puis, plus grave pour certains, hein, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Parce que à un moment donné, c'est vrai que la personne, si elle n'a pas la crainte de Dieu, aujourd'hui, hein, il y a des gens qui se disent chrétiens, et puis quand on voit leur comportement, leur style de vie, qui c'est un style de vie qui n'est plus du tout en opposition au monde, hein, il y a aucune différence. On peut penser à plein de choses hein, par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais si on n'a plus la crainte de Dieu, en pensant que de toute façon tout est grâce, et puis que Dieu fera que te pardonner, et puis je peux mener la vie qui me plaît, j'ai plus de compte à rendre parce que le sang de Jésus me couvre de tout. Hein, ils ont pris l'option du sang de Jésus. Donc, alors oui, mais pour autant qu'on demande pardon, puis qu'on se repente, puis qu'on demande l'aide du Seigneur pour changer de comportement.
Il y a beaucoup d'intellectuels qui pensent comme ça, tu sais, dans la haute sphère. Même dans le domaine politique, tout ça, et certaines, même scientifiques qui disent de toute manière, je pense pas que Dieu est tellement amour que de toute manière, il va tous nous pardonner, on sera tous avec lui au ciel, au paradis. Certains, personnes, pas des SDF, hein, des gens très bien placés dans la société, qui raisonnent des fois comme ça. Et d'autres aussi du monde qui disent, ils pensent même pas, ils croient pas que Dieu est mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés, de nous purifier. Ils y croient même pas, certains. Qu'est-ce que vous leur racontez, ça? Ils veulent même pas rentrer en matière. Certains, quand on va faire des témoignages, ils y croient pas, ça. Ils veulent même pas entendre parler, tu vois, quand tu vas faire des témoignages.
C'est presque... je veux pas me mettre à la place du juge, mais c'est presque plus pardonnable, ça, quelqu'un qui connaît pas Dieu, qu'un chrétien qui connaît Dieu puis qui croit qu'il peut faire n'importe quoi.
Ah ouais.
Parce que c'est Pierre, hein, Pierre Paul qui disait mais que je sois anathème, hein, que je sois digne de la malédiction de Dieu si je vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Parce que c'est vraiment annoncer un autre évangile, c'est plus annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ouais, c'est peut-être plus grave de se dire croyant et de vivre dans un évangile qui est complètement biaisé. Parce qu'on va empêcher peut-être même, hein, comme dit Jésus aux pharisiens, mais vous empêchez ceux qui voudraient y rentrer hein, par rapport au royaume de Dieu. Si on a un comportement qui a l'encontre de l'évangile et puis on se déclare chrétien, on peut empêcher d'autres personnes à venir au Seigneur parce que les gens vont se dire, bah, c'est ça d'être chrétien, alors ça ne m'intéresse pas. Hein.
C'est le témoignage qui donne,
c'est ça,
qui correspond pas. Quoi. Ouais.
Et c'est pourquoi, hein, là, au verset 10, Pierre nous dit « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Hein. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » On voit bien que le salut, c'est pas quelque chose de tout simple. C'est verset 10.
1, 10.
Ouais, 2 Pierre 1, 10.
1, 10, oui. 10.
Ouais. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation pardon, et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Hein. On voit bien que ce n'est pas un salut light. On doit travailler à notre vocation, travailler à chercher la volonté de Dieu, à rentrer dans le service que le Seigneur demande de nous. Alors, une fois encore, hein, on n'est pas sauvé par les œuvres, on ne devient pas catholique, hein, mais quand même, si on s'intéresse jamais à la volonté du Père, hein, c'est pas tous, vous connaissez ce passage, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront forcément du royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père, ouais, de Dieu. Ouais.
Ça connaît sa volonté.
Donc, en effet, on est appelé, et sa volonté, c'est de le connaître lui, et sa volonté, c'est de connaître sa parole. Et si on demeure dans sa parole, alors on est assuré qu'on verra jamais le séjour des morts. Parce que, bon, c'est une grâce de pouvoir demeurer dans sa parole, mais c'est quand même aussi un désir qu'on doit avoir au fond de notre cœur. Dieu veut pas, va pas aller contre notre désir. Si on n'a pas le désir de rester dans sa parole, bon, ben voilà, c'est un choix. Mais en tant que chrétien, ayant cette soif de Dieu, ben je pense qu'on va aussi avoir soif de rester un bon terme avec notre Seigneur et puis de rester en accord avec ce qu'il nous enseigne dans ses Écritures. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, tout saisir, tout vivre. Hein, on est, mais il voit la motivation qu'il y a sur notre cœur. C'est ça.
Puis on peut comprendre qu'on est prédestiné en lisant ce passage. On parle souvent de prédestination, mm-hmm. hein, selon le Seigneur. Mais si on lit ça, on voit tout de suite la prédestination. Mm-hmm. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affirmer l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Mm-hmm. Donc s'il y a un appel et un choix, ça veut dire que Dieu a fait un appel et un choix. Donc s'il y a un appel et un choix, c'est qu'on est prédestiné. On est bien d'accord.
On est tous choisis en Jésus-Christ. Mais exact, après, on répond ou non à cette élection, ouais. Ouais. On est tous des élus de Dieu parce que on a tous besoin du salut. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut se justifier au travers de la loi. Et c'est pour ça qu'on est tous élus. Mais après, on y répond. Il y a beaucoup d'appelés, hein. Peu d'élus. Ouais. Alors voilà. Alors. ouais. Après, on y répond ou on n'y répond pas à cette élection de Dieu.
Tout le monde est appelé une fois ou l'autre. Ouais. Tous. Il n'y en a pas un qui peut dire j'ai jamais été appelé. Ouais. Mais c'est moi, il n'a jamais répondu.
Il y en a qui entendront. Pardon, oui.
Non, rien.
Ouais, non, je voulais dire, il y en a qui entendront peut-être jamais le nom de Jésus. Hein. Moi, c'est arrivé, on était en Inde, là, on parlait de Jésus. Au nord de l'Inde, des régions qui ont été très très peu évangélisées. Ben, je me rappelle, hein, je parlais à un monsieur, je disais, mais vous connaissez le nom de Jésus? Non, ça m'intéresse, c'est qui? Jamais entendu.
Alors, si je l'ai entendu,
c'est qui ce monsieur?
Et puis, voilà, hein, c'est vrai que si la personne n'entend pas l'évangile, ben, Paul dit à l'Épître aux Romains, ben, il sera jugé selon la loi. Puis s'il n'a pas connaissance de la loi, il sera jugé selon sa conscience. Mais Dieu nous appelle sur cette terre, hein, et puis c'est vrai que si on a entendu l'évangile, ben, on sera jugé selon l'évangile. Parce que, alors, comme disait ce monsieur-là qui croyait à cette foi qui guérit dans toutes les directions, il a dit quelque chose de que je trouvais plus intéressant que ça. Il a dit, ben, soit on est en Christ, ou bien si on est en dehors du Christ, on se retrouve de nouveau sous le joug de la loi. Et ça, c'est juste. Soit on est en Christ, soit notre vie, Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Hein, soit on se soumet au Seigneur Jésus-Christ, soit on a donné notre vie à Jésus. Et du moment que le chrétien ne veut plus vivre de cette vie-là, ben, il se retrouve de nouveau sous la malédiction de la loi. Parce que la malédiction de la loi, elle tombe au travers de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Puis elle tombe sur nos vies au moment où on vit dans le Seigneur. Quoi. Ouais. Donc, on est appelé un jour à pouvoir recevoir la couronne de la vie. Hein. Ça, c'est Apocalypse 2, verset 10, où Jésus nous appelle à être fidèles jusqu'à la mort et non seulement quelques jours sur cette terre. Hein. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de la vie. Hein. On est appelé, en tant que chrétien, à marcher dans la fidélité.
Mais là, si on peut juste faire une petite parenthèse avec la couronne, c'est quelque chose de plus que d'être sauvé. Hein. C'est une récompense. Hein.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est juste. Hein. C'était juste que je
voulais. Ouais.
Donc il y a des sauvés sans couronne et certains qui ont la couronne, non?
Oui, il y en a, ils ne feront pas grand-chose sur la couronne.
Ah,
ouais.
Mais de toute façon, tu es quelque chose ou pas, tu la poseras à ses pieds. Donc.
De toute façon, tout est à sa gloire. Hein.
Sauvé à travers le feu.
Hein? Ça rejoint aussi le verset 11 là, de 2 Pierre. Hein. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Hein. C'est en cherchant à vivre de ces valeurs chrétiennes, au travers de ces valeurs chrétiennes, que Dieu va ancrer dans notre cœur. C'est son œuvre en nous. Mais c'est quand même parce qu'on les recherche qu'on aura une large entrée qui nous sera assurée dans le royaume éternel. Il y en a d'autres, l'entrée sera juste passée, quoi.
Difficile.
Ils vont, leur couronne va tomber sur l'eau de la porte, là, sur l'eau du passage de la porte. Et puis, voilà. Mais c'est sûr, hein, les récompenses ne seront pas toutes les mêmes. Alors oui, la vie éternelle, mais après, les récompenses, elles seront différentes selon la fidélité qu'on aura témoignée envers le Seigneur. Hein. Ça rejoint cette parabole du Seigneur Jésus-Christ par rapport au talent. Hein. Bon et fidèle serviteur, hein, t'étais fidèle un peu de choses, je t'en donne beaucoup. Soit en autorité sur 10 villes, et puis pour celui qui a reçu les 5 talents, voilà, la multiplication aussi. Puis celui qui a été caché son trésor, ben, il perd tout. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Tiens, tout à l'heure, tu as parlé de séjour des morts et du paradis. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut interpréter par séjour des morts et puis paradis par rapport à une personne, par exemple, qui est très sévère? Comment il faut interpréter ça? Tu as parlé de ça tout à l'heure.
Alors, en effet, le paradis, c'est comme dimanche, on a lu la parabole du riche et de Lazare. Hein. Lazare est allé au paradis, il est allé dans le sein d'Abraham, en fait, rejoindre Abraham, là où Abraham se trouve, et Abraham se trouve auprès de Dieu. Hein. Comme il dit aux brigands, même le brigand qui s'est repenti ses dernières heures de vie,
c'est ça, aujourd'hui, c'est là que je voulais en venir.
Avec moi, tu seras au paradis.
C'est là que je voulais dire. Donc, dès qu'il est mort à la croix, il était automatiquement au paradis avec le Seigneur. Voilà. Il n'est pas parlé de séjour des morts. Alors, c'est qui va au séjour des morts?
Les autres.
Ceux qui attendent
à tous ceux qui sont rebelles.
Ouais. Oui, puisque
les incroyants, ils vont au séjour des morts. Donc, il y a deux lieux bien distincts au moment de la mort.
Et ça, c'est l'histoire justement d'Abraham, le saint d'Abraham, où il dit que tu ne peux pas aller dans seul, tu ne peux pas passer dans celui.
Ni de l'autre.
Voilà, ni de l'autre.
Il y a une coupure. Le chrétien, c'est dans le paradis, ou dans l'attente de la résurrection du corps,
il y a pas
et l'autre, il est dans le séjour des morts, il attend le jugement. Voilà.
Donc, pas tout le monde va au séjour des morts à la mort. Voilà,
non,
c'est ça que je veux dire.
Non, il y a deux lieux distincts.
Voilà, pour être précis avec ça. Après, hein, parce qu'il y en a qui peuvent confondre.
Oui.
Il y en a certains qui peuvent confondre.
C'est pas la même chose.
Amen, ouais. Amen. On n'est pas flottant.
Dans le paradis d'abord, et puis après, on va au ciel. Parce que Jésus a été d'abord dans le paradis, et puis après il est monté auprès du Père. Donc il y a deux lieux, je suppose.
Oui, c'est tous des lieux différents, en gros. C'est des lieux bien différents, bien distincts.
Il y a deux lieux pour le chrétien, si tu veux. D'abord le paradis, puis après le ciel.
Oui.
Le paradis, c'est la présence de Christ, avec Christ,
et la
avec
Dieu. La nouvelle terre.
Après, ouais, à la fin.
Ah ouais, après, là, encore plus loin.
C'est
tout
à la fin. Ouais. Nouveau cieux, nouvelle terre.
Mais il y a ce psaume qui dit hein, tu n'as pas permis à ton bien-aimé qu'il voie le séjour des morts. Ouais. En fait, c'est un psaume qui parle de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant juste, comment il aurait pu se retrouver dans le séjour des morts? Et pour nous, c'est la même chose. Si on est justifié par le Seigneur, alors si on a notre vie en Christ, comme Christ n'est pas allé dans le séjour des morts, pourquoi est-ce qu'on irait dans le séjour des morts? Dieu veut pas qu'on termine là-bas. Non. Parce que c'est le lieu, en fait, c'est la chambre dans laquelle tu attends ton jugement.
Mais quand il est mort, il n'est pas descendu, justement.
Et les abîmes.
Non, mais il est descendu annoncé, c'est pas la même chose.
Ah, ouais. Et puis là, encore, hein, ça c'est ce fameux passage aussi dans 1 Pierre.
Il a pris tous nos péchés, donc il est descendu.
Ouais, non, il était annoncé la victoire.
Ça c'est ce fameux passage dans 1 Pierre qu'on avait vu la dernière fois. Que si on lit bien, en fait, c'est il était annoncé.
Faudrait sa victoire.
Non. C'est où, zut, c'est où ce passage?
C'est dans
1 Pierre. C'est dans
1 Pierre. Les premiers Jacques.
Ah, ou bien c'est dans Jacques.
Maintenant,
j'ai un doute. Oui, c'est peut-être dans Jacques aussi. C'est un des endroits.
Où est-ce que c'est? Il n'est pas resté.
Non, mais en fait, il faut bien fouiller ce texte parce que, en fait, ça nous est parlé de Noé. Noé, du prédicateur de la justice, qui a été annoncé aux esprits rebelles, en fait, à se repentir. Et puis, parce qu'en fait, quand Noé prêchait la repentance, il l'a prêché au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est pas que Jésus a été dans le séjour des morts pour prêcher la repentance. Parce que quand tu finis au séjour des morts, ça veut dire que quelque part, tu es déjà jugé. Tu n'as pas ton jugement final.
Mais il peut aller partout, Jésus, non?
Mais il n'est pas allé au séjour des morts. C'est peut-être bizarre à dire. Non, il n'est pas allé. Et puis, il faudrait qu'on retrouve ce passage, hein, mais est-ce que c'était pas dans.
C'est dans Jacques.
Mais oui, c'est dans Jacques. Autrement, il faut que je cherche sur.
Regarde sur la concordance.
Non, mais je vais chercher là.
Oui, mais t'as une concordance là. Moi, je le suis.
Là, j'ai Google qui marche encore mieux.
Ah, ben alors. Tu dis OK, Google. Dis-moi où.
Je pensais que c'était dans 1 Pierre qu'on avait vu ça. Alors, 1 Pierre 3, oui, c'est ça.
1 Pierre, chapitre 3.
1 Pierre 3. Mais c'est vrai qu'un séjour des morts, paradis, 3e ciel, 8e ciel, je rajoute. Hein. Mais, ouais, c'est pas. J'ai dit quoi, 1 Pierre 3
ouais.
3.18. Alors, 1 Pierre 3.18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel, donc il parle de l'esprit. Aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois, il ne parle pas du temps...
C'est pas le séjour des morts, là.
Il parle d'un temps différent. En effet, ce n'est pas le séjour des morts. Il nous a nulle part parlé du séjour des morts. Il nous a parlé d'esprits qui étaient en prison. Mais ces esprits en prison, c'était qui? C'était les gens du temps de Noé qui étaient incrédules. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Hein? Donc, c'est Noé qui était le prédicateur de la justice. Il a prêché la repentance, mais il n'y en a eu que 8 de sauvés, malgré son ministère qui a duré large. Qu'est-ce qu'on avait dit? On en a 150 ans, ou je ne sais plus, on avait dit, hein, la durée d'une centaine d'années, hein, on pourrait trouver, hein, parce qu'on peut avoir la durée de la construction de son arche. Donc, Noé a prêché longtemps, il n'a vu que 8 personnes, hein, les membres de sa famille être sauvés, et c'est tout. Les autres n'ont pas écouté. Pourtant, Jésus prêchait au travers de lui. Hein? Parce que Jésus étant la parole de Dieu, quand un homme parle au nom du Seigneur, véritablement, ben c'est Jésus qui parle. Et là, c'est vrai que c'est pas que Jésus est descendu dans le séjour des morts, parce qu'il y a des gens qui vont donner cet enseignement. Non, une fois que tu es dans le séjour des morts, c'est fini. T'as pas de deuxième chance. Hein. C'est la même erreur des catholiques aussi avec le purgatoire, en disant il y a un lieu et si on prie pour les gens, ils vont pouvoir sortir de ce lieu-là.
C'est pour une chose que Martine a de la peine à comprendre.
Oui, c'est sûr que c'est des enseignements.
C'est fou ce qu'ils sont ancrés dans cette.
Donc, le séjour des morts, il n'y a aucune chance de revenir.
C'est ce que disait.
Il n'y a plus de prédication, le Seigneur n'a pas essayé de les sauver.
Non, c'est fini. Aux morts,
c'est fini.
Après la mort vient le jugement. Ceux qui sont dans le séjour des morts ne seront jamais.
Il est donné à l'homme de vivre une fois après vient le jugement.
Isabelle, tu n'as que pendant ta vie que tu peux te repentir. Après, c'est fini. T'es mort, c'est prêt.
Mais les premiers.
Aujourd'hui, si tu entends sa voix n'endurcit pas
ton corps.
Aujourd'hui,
si
t'es plus dans ce monde des vivants.
Mais ces hommes des cavernes à l'époque, il n'y avait pas de message, il n'y avait rien du tout. Il y en a qui sont morts. Les premiers êtres humains sur la terre.
Alors là,
les Cro-Magnons et tous les autres.
Ils seront jugés par les Cro-Magnons et les Cro-Magnons. Parce qu'en chaque homme, on a une conscience, on a la conscience du bien et du mal qui est inné en nous, donc ils seront jugés. C'est comme cette tribu qui a tué un missionnaire.
Un jeune missionnaire
il n'y a pas longtemps avec des flèches. Mais lui, il a enfreint le fait, il a voulu les évangéliser. Mais eux, ils n'ont pas eu Jésus.
Ils l'ont vu comme un intrus, hein, c'est clair. Hein.
Ils l'ont vu comme un intrus.
Lui, il voulait aller pour prêcher l'évangile.
Ouais.
Il faut croire qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu.
Non. Alors, il y a un de ses meilleurs amis qui a dit qu'il n'avait pas eu de sagesse.
Voilà, c'est juste.
C'est ça. Donc,
il voulait aller moi. Bah, oui, je vais aller.
Voilà,
moi.
C'était peut-être ça. Ouais,
je veux être.
Je juge pas la personne, je ne la connais pas. D'après ce qui se dit, d'autres ont voulu aller puis ils ont réfléchi.
Il aurait pu provoquer des maladies dans cette.
Ben oui.
Ils n'ont pas nos anticorps. Alors le fait d'être en contact avec eux, même leur souffler dessus, je ne sais pas quoi, ça peut créer une maladie.
Bah, la peste, au Moyen-Âge, elle est venue de ça. La peste, c'est les croisés qui l'ont ramené du Moyen-Orient. Elle s'est développée comme ça en Europe, quoi. Donc en effet, hein, quand un corps n'est pas habitué à certains virus et compagnie.
Bon, la peste, il y a aussi le rat hein, qui a aussi provoqué la peste noire.
Ouais.
C'est le rat. Hein.
Oui. Mais c'est venu au travers des croisés qui ont ramené ça dans leur corps. Mm-hmm. Ouais. Parce que les gens ici en Europe n'étaient pas confrontés à cette maladie.
Mais il y a eu plusieurs épisodes de peste, là, tu parles, c'était en 1000, mais il y a eu encore en 1600 ou 1700.
Ah ouais,
c'est la peste espagnole, celle-là, où il y a eu des millions de morts.
Voilà, mais ça, c'est millions ça, de ça, morts, ça aurait hein. été plutôt
la peste espagnole.
Ça aurait été plutôt le rat, le vecteur, par les mauvaises conditions, les égouts qui étaient à ciel ouvert, enfin tout ça. À Paris, je pense, à Paris notamment.
Alors, c'est vrai que je ne connais pas les détails, quelle peste exactement c'était pendant la première période des croisades qui est, voilà, qui a eu ça. Alors. Mais on doit, peut-être on le sait, hein. Sûrement qu'un historien il a plus de détails que ça. Ouais. Enfin, voilà, donc, une fois encore, c'est la parabole du riche et de Lazare que le Seigneur répond au riche, mais il y a un fossé entre toi et moi. Entre toi et Lazare, tu ne peux pas venir ici. Tu ne peux pas, c'est fini.
Mais va dire à mes frères. Ouais. Mais s'ils ont la loi et les prophètes, ils n'écoutent pas. Donc, même que tu reviendrais des morts, ça ne ferait rien du tout. Les gens sont tellement orgueilleux, tellement. Ouais. Ils croient tellement peu. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'ils croient d'autre? Tu peux faire tous les miracles que tu veux, ça ne veut rien leur faire.
Ouais.
C'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Il voit A plus B, mais il ne veut pas.
Alors, si on reprend dans 2 Pierre, histoire de encore faire un petit bout là, une plus grande, 6 minutes. 2 Pierre 1.
14, 15.
Alors, on s'était.
18.
On s'était arrêté au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur. vous sera pleinement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Hein. Ici, il y a un peu comme un petit sous-chapitre là que j'ai mis 2.3, hein, attestation de la parole, de la vérité par l'apôtre. Hein. Un petit sous-chapitre sans motif, et puis le deuxième petit sous-chapitre, sur quoi s'appuie Pierre pour son enseignement. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir connaître la vérité. Aujourd'hui, on est dans un monde très laxiste, il est laxiste, mais il y a un autre terme par rapport à la vérité. Aujourd'hui, on est dans une philosophie de pensée, hein, de dire que la vérité, on peut pas l'approcher. On a chacun notre vérité. Hein, cherche un terme là, mais il me vient pas. Aujourd'hui, on a une pensée dans le monde qui est très... j'ai pas le terme.
Je dirais que la société est sans repère.
Mm-hmm. Mais c'est vrai. Mm. Tout est relatif, voilà. Mm. Hein, c'est un peu ça. Tout est relatif aujourd'hui. Chacun a sa vérité. On relativise beaucoup sur plein de choses. Et puis, quand on va dire, ben non, moi, je crois qu'on peut connaître la vérité, on va tout de suite être mis dans le rang des extrémistes. Hein. Ouh là là, attention, il est dangereux ceci. Hein. Il croit qu'il connaît la vérité. Quel orgueil. Hein. Alors Pierre, ici, nous explique comment découvrir la vérité. Hein. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Hein. On est appelé à être affermis dans la vérité présente. Et Pierre, ici, à un devoir, si je continue au verset 13, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de tenir en éveil par des avertissements. Pierre avait ce souci que, en tant que croyant, on puisse être affermi dans la vérité, car je sais que je quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, hein, comme on a vu avant. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Hein. Voilà, ça c'est l'avantage quand même qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. On a accès à sa parole, on peut y puiser, et puis y être ressourcé, et être affermi dans la vérité. On n'a pas une demi-philosophie, hein. On a la parole de Dieu. Qui est éternelle, qui ne passera jamais, elle est solide comme un roc, elle est fidèle, elle ne peut pas être prise à défaut. Hein. On peut entendre plein de critiques dans la société par rapport aux Écritures, mais non, les Écritures sont saintes, on n'a rien à retrancher, rien ni à rajouter, on peut s'appuyer pleinement dessus. Et Pierre nous dit ensuite, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Hein. Pierre a été un témoin direct de la gloire du Seigneur, et il a eu le privilège d'en avoir une pleine révélation. À quel moment, hein, je continue verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur, gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, Pierre appuie son enseignement pas sur de belles philosophies, sur des belles fables, hein. Non, il l'appuie directement sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le témoignage qu'il a eu de lui. Pierre a été témoin au travers du Saint-Esprit que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Hein. Il y a une voix qui s'est fait entendre lorsqu'ils étaient réunis sur la Sainte Montagne. Donc, quelle était cette montagne? On peut s'imaginer en fait que c'était la montagne de l'Hermon. Qui culmine vers 2800 mètres. Mais ça, on n'a pas la certitude. Hein. C'est la montagne la plus haute dans la région. Donc, on peut s'imaginer que quand il y a eu la glorification de Jésus sur la montagne, quand ils ont vu vraiment la gloire de Dieu, Pierre l'a vu, hein, et puis à ce moment-là, s'est révélé aussi Abraham et Moïse.
Mais c'est pas Jean qui était en haut, qui avait fait les tentes, trois tentes.
C'était Pierre qui voulait faire. Ouais.
Et Jean, il n'y était pas.
Oui, il y était aussi Jean.
Il était Jean.
Oui.
Hein. Oui. Il voulait même proposer de faire des tentes.
Tout à fait. Ouais.
Au sommet de la montagne.
Je pense pas qu'Abraham et puis Moïse auraient voulu rester.
Mais quand on voit le cadre de la parole,
c'était, c'était Élie. Non, c'était qui? Oui, c'était Élie et Moïse. Élie et Moïse. Élie et Moïse. Ouais, c'est juste ça.
Ouais. Mais quand on voit la parole de Dieu et le monde où il va actuellement, de décadence en décadence et à la fin de la destruction, mais pourquoi? Parce que personne ne veut mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé des subterfuges tels que démocratie et pays totalitaires. Alors, ils se font la guerre, la démocratie et les pays totalitaires. Dans nos pays où on appelle ça démocratie, c'est quoi? Tout le monde a le droit de faire n'importe quoi et ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. La preuve?
Sauf de prêcher
le mariage homosexuel, ils peuvent adopter des enfants.
La foi chrétienne.
Ils vont à l'église, mais attention,
tout le reste, ça, c'est la tolérance. C'est la tolérance. C'est-à-dire, au nom de la tolérance, on est intolérant. C'est-à-dire, on accepte l'intolérance au niveau du christianisme. C'est intolérant.
Tu peux pas c'est là qu'on voit que c'est. C'est la vérité, parce que tout le monde combat ça.
Voilà. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas que...
Plus tu regardes, plus tu te dis, on est dans la vérité en Christ, parce qu'il n'y a personne qui en veut. Tout le monde combat, puis qui sait qu'il est derrière? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps, il redouble d'ardeur. Et voilà. Il aime entraîner tout le monde avec lui. Pas Dieu, hein, Satan.
Donc Pierre a vu le Christ transfiguré sur la montagne, hein, et c'est le témoignage qu'il nous laisse aussi. Il a vu la gloire de Dieu, et ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il est monté sur cette montagne avec Jean.
C'est une grâce, hein. Celui qui voit la gloire de Dieu, il meurt normalement.
Et en effet, il avait envie de construire des tentes parce qu'il s'est dit, mais quel lieu, hein, on va y rester. Hein. Mais seulement, en effet, Élie et Moïse, eux...
Ils n'avaient pas envie de revenir. Non.
Et quand ils sont redescendus de la montagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient un visage rayonnant, resplendissant. C'est mentionné. Vraiment, la gloire de Dieu était reflétée en eux quand ils sont redescendus vers le bas.
Ils brillaient.
Alors voilà, hein, on peut. C'est, nous, on y croit, mais on croit vraiment ce que nous dit ici Pierre. Et c'est un témoin fidèle, c'est un témoin choisi du Seigneur, et sa parole, elle est vraiment la parole du Seigneur. Et puis d'ailleurs, on verra dans la suite un peu plus aussi, parce que les versets qui suivent nous parlent aussi de la parole, combien cette parole, elle est précieuse, et puis combien cette parole, on est certain qu'on peut s'appuyer à 100% dessus. Alors voilà, on va terminer là pour ce soir.